Chapitre 10, le dossier ALB. Je vous dirai, dit Bressac Lupin, dès l'abord, que cette affaire des 6 millions sur laquelle les journaux ont épilogué, sans imaginer même un semblant d'hypothèse plausible, me fut apportée par Beamish. Oui, par Beamish. Il avait épousé, après la guerre, une jeune dactylographe d'Athènes, au service d'un grec fort riche. Cette dactylographe, tuée depuis dans un accident de chemin de fer, lui confia quelques détails sur son ancien patron qui éveillèrent fortement l'attention de Beamish. Les voici. Le grec, redoutant l'effondrement de la monnaie de son pays, avait réalisé toute sa fortune. D'une part, valeurs en portefeuille et immeubles situés à Athènes, d'autre part, propriétés et domaines immenses situés en Épire et surtout en Albanie. Deux dossiers furent établis, l'un qui contenait la première moitié de richesse, laquelle avait été déposée en titre dans une banque anglaise. Ce dossier fut appelé le dossier de Londres. L'autre qui concernait la vente de toutes les propriétés et domaines, et qui fut appelé le dossier ALB, c'est-à-dire, sans aucun doute, Albanie. Or, bien que les deux dossiers, d'après les comptes relevés par le dactylographe, eussent chacun une même valeur approximative de 10 millions, il se trouvait que le dossier de Londres était volumineux et que le dossier ALB consistait en un tout petit paquet enveloppé, ficelé et cacheté, qui mesurait 20 à 25 cm de longueur et que les Grecs enfermaient toujours dans son tiroir ou dans son sac de voyage. Sous quelle forme le dossier ALB contenait-il les 10 millions des sommes recouvrées en épire ? Mystère ! Que devint le patron de la dactylographe après qu'elle l'eut quitté pour se marier ? Autre mystère que Beamish n'avait pas encore éclairci quand je le rencontrais il y a 3 ans. Mon organisation internationale me permit de faire à ce propos des recherches plus actives qui furent longues mais efficaces. Je retrouvai la banque de Londres où il avait la moitié de sa fortune et je pus établir que cette banque payait les coupons des titres déposés à un monsieur X de Paris. Oh, j'eus beaucoup de mal à découvrir que ce monsieur X était un Allemand, puis à découvrir l'adresse de cet Allemand, et à découvrir enfin que l'Allemand et le Grec ne faisaient qu'un. Antoine Bressac s'interrompit. Victor écoutait sans poser une seule question. Alexandra, les yeux fermés, semblait dormir. Bressac reprit. Mon enquête se resserra, conduite par une agence dont je suis très sûr. J'appris que le Grec, malade, presque impotent, ne quittait jamais l'hôtel particulier où il logeait et qu'il couchait au rez-de-chaussée, gardé par 2 anciens détectives à sa solde, et que le personnel, composé de 3 femmes, couchait au sous-sol. Indication précieuse. J'en recueillis une autre, plus importante, en me procurant la copie des mémoires afférentes à son installation. L'un d'eux réglait des travaux de sonneries électriques, dites de sécurité, et je pus me rendre compte que tous les volets des fenêtres de l'hôtel, tous sans exception, étaient munis d'un système invisible qui actionnait à la moindre pression une série de timbres. J'étais fixé. De telles précautions ne s'écoulent que s'il a quelque chose à redouter ou plutôt à cacher. Quoi ? Sinon le dossier ALB. Oui, sans aucun doute, déclara Victor. Seulement, où se trouve le dossier ? Au rez-de-chaussée ? Oh, je ne le pense pas, puisque c'est là que parmi d'autres personnes s'écoule l'existence quotidienne de notre homme. Quant au premier étage, il est vide et fermé. Mais j'appris par une vieille femme de ménage renvoyée que tous les jours il se fait monter au 2e et dernier étage dans une vaste pièce aménagée en cabinet de travail et où il passe son après-midi tout seul. Il y a réuni ses papiers, ses livres les souvenirs qui lui restent des deux êtres qu'il aimait le plus, sa fille et sa petite-fille, mortes toutes deux, ouvrages de tapisserie, portraits, jouets d'enfants, bibelots, etc. Avec les révélations de cette femme de ménage, j'ai dressé patiemment le plan de la pièce. Bressac le déroula. Ici le bureau, ici le téléphone, ici la bibliothèque, ici l'étagère aux souvenirs, ici la cheminée surmontée d'une glace sans teint mobile. Et c'est le jour où j'ai su qu'il y avait à tel endroit une glace sans teint que mon projet prit sa forme. Je m'explique. À l'aide d'un crayon, il dessina des lignes sur un bout de papier. L'hôtel est un peu en retrait sur une large avenue dont il est séparé par une étroite cour, ou plutôt une bande de jardin en bordure, et par une haute grille. À gauche et à droite, des murs limitent cette cour. À droite, un terrain vague, encombré d'arbustes, est à vendre. Je réussis à y pénétrer. Je n'eus qu'à lever les yeux pour voir que la glace sans teint n'avait pas de violet. Je commençai aussitôt mes préparatifs. Bon, ils sont à peu près terminés. Et alors ? Et alors, je compte sur vous. Mais pourquoi sur moi? Parce que Bibiche est en prison, et que je vous ai jugé à l'œuvre. Les conditions? Oh, le quart de bénéfice. Ah, la moitié, si c'est moi qui trouve le dossier à LB, exigea Victor. Non, le tiers. Bon, soit. Et les deux hommes se serrèrent la main. Bressac éclata de rire. Deux négociants, deux financiers qui concluent une affaire importante, échangent des signatures, et souvent par devant notaire, tandis que deux honnêtes gens comme nous se contentent d'une poignée de mal loyale, après quoi je sais pertinemment que votre concours m'est assuré, et vous savez que je m'en tiendrai strictement au terme de notre engagement. Victor n'était pas un expansif. Il n'éclata pas de rire, lui. Tout au plus sourit-il un peu, et comme l'autre lui en demandait la raison, il répondit « Vos deux négociants et vos deux financiers ne signent que quand ils sont bien au courant de l'affaire. Eh bien, j'ignore le nom de votre adversaire, le lieu où il habite, les moyens que vous devez employer et le jour que vous avez choisi. » Ce qui signifie qu'il y a là, chez vous, comme de la défiance qui m'étonne. Bressac hésita. Est-ce une condition que vous posez? Nullement, dit-il, je n'ai aucune condition à poser. Eh bien moi, dit Alexandra, qui sortit soudain de sa rêverie et s'approcha des deux hommes, moi j'en pose une. Laquelle? Je ne veux pas qu'il y ait de sang versé. C'est à Victor qu'elle s'adressait avec une expression ardente et une voix impérieuse. Vous avez dit tout à l'heure que toutes ces histoires de la Bicoque et de la rue de Vaugirard étaient réglées. Non, elles ne le sont pas, puisque je peux apparaître comme une criminelle. Rien ne vous empêchera dès lors, dans l'expédition que vous préparez, d'accomplir le même geste que vous m'attribuez à moi ou à Antoine Bressac. Victor déclara paisiblement, « Je ne vous attribue rien, ni à Antoine Bressac, ni à vous, madame. » Si, mais quoi donc? Nous avons tué Élise Masson, ou du moins un de nos complices l'a tué, et nous sommes responsables de sa mort. Non. Mais cependant, c'est la conviction de la justice et c'est l'opinion courante. Ce n'est plus la mienne. Alors qui, pensez donc? On a vu une femme qui sortait de chez Élise Masson et qui devait être moi, et qui était moi, en effet. En ce cas, comment ne serait-ce pas moi qui ai tué? aucun autre nom n'a été prononcé que le mien. Parce que la seule personne qui aurait pu prononcer un autre nom que le vôtre n'a pas encore eu le courage de le faire. Mais quelle autre personne ? Victor sentit qu'il devait répondre honnêtement. La restriction qu'il avait opposée à Antoine Bressac en demandant des indications immédiates l'obligeait à reprendre barre sur ses complices et à donner une fois encore la mesure de ses moyens. « Quelle autre personne » répéta-t-il. « L'inspecteur Victor de la brigade Bondaine. Mais que voulez-vous dire ? Bon, ce que je veux dire peut vous paraître une simple hypothèse, mais c'est sûrement ce que la stricte vérité, une vérité que j'ai déduite peu à peu des faits et d'une lecture attentive des journaux. Vous savez ce que je pense de l'inspecteur Victor. Sans être un phénomène, c'est un policier de grande classe, mais tout de même un policier, sujet, comme tous ses collègues et comme tout le monde d'ailleurs, à des faiblesses et à des négligences. Or, le matin de l'assassinat, lorsqu'il se rendit avec le baron d'Autray chez Élise Masson pour un premier interrogatoire, il commit une faute que nul n'a remarquée, mais qui sans aucun doute donne la clé de l'énigme. Une fois redescendu, et dès qu'il eut réintégré dans son auto le baron, il pria un gardien de la paix de surveiller celui-ci, et il alla, dans un café du rez-de-chaussée, téléphoner à la préfecture pour qu'on lui envoyât aussitôt deux agents. Il voulait que la porte fût surveillée et qu'Élise Masson ne pût sortir avant qu'une perquisition minutieuse n'eût été faite chez elle. « Continuez, je vous en prie, » murmura la princesse, tout émue. Eh bien, la communication téléphonique fut difficile à obtenir, longue. Et pendant les 15 minutes qu'elle dura, il était naturel que le baron d'Autray eût l'idée, bon, non pas de s'enfuir, à quoi bon, mais de remonter chez sa maîtresse. Qui l'en empêchait ? L'inspecteur Victor était occupé. Le gardien de la paix veillait à la circulation et d'ailleurs l'apercevait à peine sous la capote du cabriolet. « Mais pourquoi aurait-il voulu la revoir ?» dit Antoine Bressac, très attentif lui aussi. « Pourquoi ? Mais rappelez-vous la scène dans la chambre d'Élise Masson, telle que l'a racontée l'inspecteur Victor. Lorsqu'elle sut que Maxime d'Autray était accusé, non pas seulement d'un vol mais d'un crime, elle parut exaspérée d'un tel soupçon. Or, ce que l'inspecteur Victor prit en effet pour de l'indignation ne fut sans aucun doute que de l'épouvante. Que son amant ait volé les bons, elle le savait, mais elle n'avait pas imaginé un instant qu'il pût avoir tué le père Lescot. Elle eut horreur de cet homme et elle eut peur de la justice. Daufray ne s'y trompa pas, lui. Il fut persuadé que cette femme le dénoncerait. Et c'est pour cela qu'il voulut la revoir et lui parler. Il avait une clé personnelle de l'appartement. Il interroge sa maîtresse. Elle répond par des menaces. D'autres est sa folle. Se laissera-t-il faire ? Si près du but, maître des bons de la défense, ayant déjà tué pour les avoir, va-t-il échouer au dernier moment ? Alors il tue. Il tue cette femme qu'il adore, mais dont la trahison immédiate est si évidente que, durant quelques secondes, il la hait. Une minute plus tard, il est en bas, sous la capote de l'auto. Le gardien de la paix ne s'est avisé de rien. L'inspecteur Victor n'a aucun soupçon. « De sorte que moi, » chuchota la princesse, « de sorte que vous, en arrivant une heure ou deux après, pour vous entretenir simplement de l'affaire avec Élise Masson, vous trouvez sur la porte la clé oubliée par l'assassin. Vous entrez, en face de vous, Élise Masson étendue, étranglée à l'aide de ce foulard jaune et vert que vous lui avez donné. » Alexandra était bouleversée. « C'est cela, dit-elle, toute la vérité est là. Le foulard était sur le tapis près du corps. Je l'ai ramassé. J'étais folle de terreur. C'est cela, oui, c'est cela. Antoine Bressac approuva. « Oui, aucune erreur possible. Les choses ont eu lieu ainsi. C'est Dautray le coupable, et le policier ne s'est pas vanté de son imprudence. » Il frappa Victor sur l'épaule. « Décidément, vous êtes un rude type. Pour la première fois, je rencontre un collaborateur sur qui je peux m'appuyer. Marcos et Victor, nous ferons de la bonne besogne ensemble. » Et tout de suite, il lâcha les confidences nécessaires. Le grec s'appelle Sériphos. Il habite non loin d'ici, le long du bois de Boulogne, au 98 bis du boulevard Maillot. L'expédition aura lieu mardi prochain. Soir du jour, me sera livrée une échelle spéciale pouvant s'allonger à 12 mètres. Nous monterons par là. Une fois dans la place, nous redescendrons, ouvrir la porte du vestibule d'entrée à trois hommes de Mahamande qui seront de faction dehors. La clé est sur la porte d'entrée à l'intérieur ? Oui, paraît-il. Mais il doit y avoir aussi à cet endroit un dispositif de sonnerie électrique qui fonctionnera dès qu'on essaiera d'ouvrir. Oui, mais tout est combiné pour une attaque de dehors. Pas pour une attaque venant du dedans, comme la nôtre, et le dispositif est visible. Il me suffira donc de l'empêcher de jouer. Après quoi, mes hommes se chargent de ligoter les deux gardiens surpris au lit, et nous aurons dès lors tout notre temps, d'abord pour jeter un coup d'œil dans les pièces du rez-de-chaussée, ensuite et surtout pour fouiller à fond le cabinet de travail du second étage où doit être le magot. Ça va ? Ça va. Il y eut une nouvelle poignée de main entre les deux hommes, plus chaleureuse encore. Les quelques jours qui précédèrent l'expédition furent une période délicieuse pour Victor. Il savourait son triomphe prochain, ce qui ne l'empêchait pas d'être infiniment prudent. Pas une fois il ne sortit. Il n'envoya aucune lettre. Il ne donna pas un seul coup de téléphone. C'était là évidemment des garanties qui devaient inspirer à Bressac la plus grande confiance. Victor, un instant peut-être un peu trop grandi par son initiative et par sa clairvoyance, reprenait de lui-même sa place véritable. Associé, oui, mais subalterne. Les préparatifs, les décisions regardaient Antoine Bressac. Pour lui, il n'avait qu'à se laisser conduire. Mais quelle profonde joie il goûtait à observer son redoutable adversaire, à étudier ses façons, à voir de près cet homme dont on parlait tant sans le connaître. Et quelle satisfaction, après avoir si bien manœuvré pour s'introduire dans sa vie intime, de constater que Bressac n'avait pas une ombre de méfiance et qu'il lui faisait part de tous ses desseins. Quelquefois Victor s'inquiétait. N'est-ce pas lui qui me joue ? Le piège que je prépare, n'est-ce pas moi qui y tomberai ? Dois-je admettre qu'un homme de sa taille se laisse ainsi duper ? Mais non, Bressac s'abandonnait en toute sécurité, et Victor en avait 20 preuves par jour, dont la plus grande peut-être était la conduite d'Alexandra avec qui il passait la meilleure partie de ses après-midi. Elle était maintenant détendue, souvent gaie, toujours cordiale, et comme reconnaissante de lui avoir révélé le nom du coupable. Je savais bien que ce n'était pas moi, mais n'est-ce pas ? Mais c'est une délivrance de penser que, si jamais je suis découverte, je pourrais tout au moins répondre que je n'ai pas tué. Et pourquoi seriez-vous découverte ? Oh, sait-on jamais ? Mais si on sait ! Vous avez en Bressac un ami qui ne permettra jamais qu'on touche à vous. » Elle gardait le silence. Ses sentiments pour celui qui devait être son amant restaient secrets. Victor en arrivait même à se demander, en la voyant parfois indifférente et distraite, s'il était en réalité son amant et si elle ne le considérait pas surtout comme un camarade de danger, plus capable que tout autre de lui procurer ces émotions intenses qu'elle recherchait. N'était-ce pas le prestige de ce nom de Lupin qui l'avait attiré vers lui et qui la retenait? Mais le dernier soir, Victor les surprit debout l'un contre l'autre et les lèvres jointes. Il eut du mal à contenir son irritation. Sans la moindre gêne, Alexandra se mit à rire. « Savez-vous pourquoi je déploie toutes mes grâces en l'honneur de ce monsieur ? Pour obtenir de lui que je vous accompagne demain soir. Mais comme si ce n'était pas naturel, bien non, il s'y refuse. Une femme n'est qu'une entrave, tout peut manquer à cause de sa présence. Et il y a des dangers qu'on ne doit pas affronter, enfin un tas de raisons qui n'en sont pas. » Ses belles épaules s'épanouissaient hors de la légère tunique qui la révélait tout entière. Son visage passionné implorait Victor. « Persuadez-le, cher ami, je veux aller là-bas, justement parce que j'aime le danger. Ce n'est même pas le danger que j'aime, c'est la peur. Oui, la peur, rien ne vaut cette sorte de vertige qui vous tourne la tête. J'ai le mépris des hommes qui ont peur, c'est de la lâcheté, mais ma peur à moi, ma peur me grise plus que tout au monde. » Victor plaisanta et dit à Antoine Bressac, « Oh, je crois que le meilleur moyen de guérir cet amour de la peur, c'est de montrer que, quelles que soient les circonstances, il n'en est pas assez terrible pour inspirer la peur. Entre vous et moi, c'est un sentiment qu'elle n'éprouvera plus. » « Bon, dit gaiement Bressac, qu'il soit fait comme elle le désire, tant pis pour elle. » Le lendemain, un peu après minuit, Victor attendait au rez-de-chaussée. Alexandra le rejoignit, joyeuse, habillée d'une robe grise, très ajustée. Elle semblait toute jeune, évoquant, plutôt qu'une femme qui se risque vers une aventure périlleuse, une enfant qui se rend à une partie de plaisir. À sa pâleur, cependant, à l'éclat de ses prunelles, on sentait sous cette allégresse frémir une sensibilité toute prête à s'effarer. Elle lui montra un minuscule flacon. « L'antidote, dit-elle en souriant. « Contre quoi ? Contre la prison. Oh, la mort, je l'admets, mais la cellule, oh, à aucun prix. » Il lui arracha son flacon, et l'ayant débouché, en répandit à terre le contenu. « Ni mort, ni cellule, dit-il. Mais sur quoi s'appuie cette prédiction ? Sur ce fait ? Il n'y a ni mort ni prison à craindre quand Lupin est là. » Elle haussa les épaules. Mais lui-même peut être vaincu. Mais il faut avoir en lui une confiance absolue. Oui, oui, murmura-t-elle. Mais depuis quelques jours, j'ai des pressentiments, de mauvais rêves. Un bruit de clé dans la serrure. La porte de la rue s'ouvrit du dehors. Antoine Bressac, qui venait d'effectuer les derniers préparatifs, rentrait. « Ça y est, dit-il. Alexandra, vous persistez ? Vous savez, l'échelle est haute. Ça remue quand on est dessus. » Elle ne répondit pas. « Et vous, cher ami, vous êtes sûr de vous ? » Victor ne répondit pas non plus. Ils s'en allèrent tous trois par les avenues à peu près désertes de Neuilly. Ils ne se parlaient point. Alexandre marchait entre eux, l'allure souple, le pas bien rythmé. Un ciel d'étoiles, sans nuages, planait au-dessus des maisons et des arbres baignés de lumière électrique. Ils tournèrent à la rue Charles Lafitte, qui est parallèle au boulevard Maillot. De la rue au boulevard s'étendaient les cours et les jardins où des hôtels particuliers levaient leurs masses trouées de quelques lumières. Une palissade de vieilles planches clôturait une de ces propriétés avec une double barrière mal jointe au travers de laquelle on apercevait les arbustes et les arbres du terrain vague. Ils déambulèrent une demi-heure pour être sûrs qu'aucun passant attardé ne les gênerait. Puis, vivement, tandis que Victor et Alexandra faisaient le guet, Antoine Bressac ouvrit le cadenas avec une fausse clé et entrebâilla l'un des battants. Ils se glissèrent à l'intérieur. Des branches les entouraient, des ronces les égratignaient, le sol était jonché de grosses pierres de démolition. « L'échelle est le long du mur à gauche !» souffla Bressac. Ils y arrivèrent. Elle était en deux tronçons qui s'ajoutaient l'un à l'autre par glissière, et ils firent ainsi une échelle interminable, légère et consolidée par des cordes. Puis ils la dressèrent en enfonçant les deux pieds dans un tas de sable et de gravats. Et quand elle fut toute droite, plantée dans le sol obscur, ils la penchèrent par-dessus le mur qui séparait le terrain de la cour voisine, et doucement, avec de grandes précautions, appuyèrent l'autre extrémité au deuxième étage de l'hôtel habité par le grec Skryphos. Sur cette face latérale de l'hôtel, aucune des fenêtres ne devait être illuminée sous leurs volets hermétiquement clos. À tâtons, Bressac manœuvra l'échelle de manière que le faîte atteignit la glace sans teint dont on discernait confusément le petit rectangle. « Je monte le premier, » dit-il. « Alexandra, dès que j'aurai disparu, vous monterez à votre tour. » On vit son escalade rapide. L'échelle tremblait au point qu'on le devinait qui bondissait sur cette armature frêle. « Nous le voilà tout au bout, » chuchota Victor. « Il va couper un morceau de la glace et ouvrir le châssis. » De fait, une minute plus tard, il entrait. Et ils l'aperçurent qui se penchait vers eux et maintenant l'échelle de ses deux bras tendus. « Vous avez peur ?» demanda Victor. « Ça commence, » dit-elle, « c'est délicieux. Oh, pourvu que mes jambes ne faiblissent pas et que je n'ai pas le vertige. » Elle monta vivement au début, puis tout à coup s'arrêta. « Les jambes fléchissent, le vertige lui tourne la tête, » pensa Victor. La halte dura plus d'une minute. Bressac l'encourageait à voix basse. Enfin, elle acheva son ascension et enjamba le rebord. Bien des fois, pendant ces derniers jours au domicile de Bressac, Victor s'était dit « Ils sont tous deux à ma disposition. J'ai le numéro de téléphone particulier du directeur Gautier. Un simple appel et on vient les cueillir à domicile. » Moléo ne paraît même pas. Tout le succès de l'arrestation est pour l'inspecteur Victor de la brigade mondaine. Mais s'il avait écarté cette solution, c'est qu'il voulait ne livrer Lupin qu'en pleine action. Le sieur Lupin devait être pris la main dans le sac et coffré comme doit l'être un vulgaire cambrioleur. Or, n'était-ce pas le moment ? Les deux complices n'étaient-ils pas enfermés dans la souricière ? Pourtant, il ne se décida pas encore. Bressac l'appelait d'en haut. Il lui fit signe de patienter, il murmurait. « Comme t'es pressé, mon vieux ! Tu n'en doutes donc pas la cellule, comme ta bonne amie ! Allons, jouis de ton reste, opère, empêche !» « Empoche les 10 millions, c'est ton dernier exploit. Après ça, Lupin, les menottes !» Il monta.